moi c'est André Limbouima, Yokata Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Journée internationale de l'éducation, cela est célébré ce mercredi 7 août. Figurant parmi les 8 objectifs du millénaire pour le développement, l'éducation pour tous d'ici 2015 est une des priorités de la République démocratique du Congo. Selon le rapport Mix 2010 en RDC, les taux nets des fréquentations scolaires du cycle primaire est de 75% dans l'ensemble avec 78% pour les garçons et 72% pour les filles. Il a été également noté dans ces rapports que les taux nets des fréquences sont faibles en milieu rural et chez les mères, chez les enfants des mères moins instruites. Notons par ailleurs que selon le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les taux de scolarité en RDC est de près de 87%. Que proposez-vous pour rendre l'éducation accessible à tous, comme le recommandent les objectifs du millénaire pour le développement? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Titi Mputu, Dieudonné Nyangasa réalise l'émission présentée par Pierre-Ouéla Meiji sous la supervision de Nico Lengaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
L'éducation pour tous figure parmi l'un des 8 objectifs du millénaire pour le développement auquel a souscrit la RDC pour l'atteindre d'ici 2015, comme plus de 140 pays ont souscrit à cet objectif. Et la RDC aussi n'a pas à déroger à cet engagement. L'éducation pour tous d'ici 2015, cela veut dire avoir plus ou moins 98% des personnes qui sont instruites. Ça dépend que ce soit dans l'éducation formelle ou dans l'éducation non formelle. La RDC a souscrit à cela. Selon le rapport Mix 2010 réalisé par l'UNICEF avec le ministère du Plan, et ces rapports indiquent que les taux de fréquentation au niveau du cycle primaire est de 75% dans l'ensemble du pays, avec 78% pour les garçons et 72% pour les filles. L'idée, c'est d'atteindre le maximum possible d'enfants qui sont inscrits à l'école et qui terminent les cycles, et aussi les personnes de tout âge qui ont accès à l'éducation, que ce soit d'une manière formelle ou d'une manière non formelle. Nous en parlons avec vous et nous dégageons ensemble les pistes et solutions, ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Placide, vous êtes en Boujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Et vous avez suivi notre problématique. Vous êtes en Boujimaï. Dites-nous ce qui doit être fait pour atteindre cet objectif de l'éducation pour tous d'ici 2015.
Merci beaucoup. Avant de donner des pistes de solutions, j'aimerais un peu poser une question d'âge. Il s'agit d'abord que la population constitue une richesse pour le pays. Et cette population constitue une richesse lorsqu'elle est instruite et éduquée. Et lorsqu'elle n'est pas éduquée ou instruite, elle devient un frein au développement du pays. Maintenant, concernant d'abord la base du développement du pays, nous avons d'abord l'éducation, qui est même le pilier du développement d'un pays. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, le pays le plus développé a un taux d'alphabétisation de 99%. Par contre, au Congo, lui-même, il va en savoir plus. Concernant maintenant l'éducation, ici, pour relever le défi de l'éducation, ou atteindre les objectifs du millénaire. Au Kassai oriental, selon les deux cartes que j'ai à consulter, le taux de scolarisation chez les garçons varie entre 69% et chez les filles, ça varie entre 65% aussi. Ce qui constitue d'abord, ça c'est dans le milieu urbain. Par contre, le taux dans le milieu rural est presque précaire. Et cela est dû aussi au manque d'instruction des parents. Et le manque d'instruction des parents, et qui considèrent que non, la réussite dans la vie n'est pas stratégie par l'éducation. Et c'est là aussi et d'une part l'exploitation artisanale du diamant qui fait record dans les milieux rivales. Parce qu'il y a en Bujuma et au Kassai oriental, il y a certains milieux qui sont hostiles à l'éducation. Pour un milieu où il n'y a presque pas une école, comme je peux citer les sites de mine de Bakwaboa, il n'y a presque pas une école là-bas. Et cela est dû aussi à la politique de l'État. Si on se réfère au rapport qui a été publié en 2002, vous allez constater que les dépenses en éducation varient entre 3,5 $ ce qui est vraiment très cher. Et la part allouée à l'éducation dans le budget de l'État a varié entre 5 à 10% du budget, ce qui constitue encore un frein. Donc l'État doit booster d'abord la part allouée à l'éducation de l'État et à l'éducation doit être augmentée, peut-être même de 30%. Et aussi, sensibiliser les parents. Parce que les gens disent, surtout ici en Bujuma, on considère que non, si les gens et ceux qui ont étudié n'ont pas le travail, donc ça ne c'est pas une raison d'envoyer les enfants, parce que ceux déjà qui étudient ne font rien ou ne travaillent pas. Or, ce n'est pas ça la raison. Il faut aussi sensibiliser les parents, tous les parents qui n'ont pas reçu une instruction, ils ne sont pas motivés pour envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est là aussi le gouvernement doit aussi aider les parents avec les revenus quand même efficients pour le permettre à scolariser leurs enfants. C'est ça un peu ma solution.
Merci beaucoup, Placide. Vous pensez que la situation du Kassai oriental, vous avez le DCRP, les documents sur la réduction de la pauvreté, les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté qui décrit un peu la situation des scolarités pour chaque province. Et pour le Kassai oriental, vous avez dit, en Bujimaï, vous avez un taux de 69% de scolarité pour le garçon et 65% pour les filles. Et cela est encore plus bas dans les milieux ruraux où plus d'enfants se donnent dans les activités d'exploitation artisanale de diamants. Et ce qui fait qu'il y a même des cités où il n'y a pas d'école. Vous avez parlé de la mine de Bakwaboa où beaucoup de gens se donnent plus à l'activité d'exploitation artisanale qu'il n'y a pas d'école. Et dans ces conditions, il est difficile d'atteindre cet objectif de l'éducation pour tous. Mais vous proposez trois pistes de solutions pour y arriver. Et il faut augmenter la part du budget de l'État alloué à l'éducation. Vous pensez qu'il faut aller jusqu'à 30%. C'est le seuil pour beaucoup de pays africains aujourd'hui. Plus ou moins 30% du budget de l'État alloué à l'éducation, ce qui va permettre à ce que beaucoup d'enfants soient instruits. Mais il faut aussi la sensibilisation des parents, parce que là, vous avez dit, d'ailleurs, je venais de le dire aussi pour l'enquête mixte 2010 qui remarque que le taux de scolarité est faible en milieu rural, surtout chez les mères qui ne sont pas instruites, c'est que eux-mêmes ne voient pas l'intérêt de pouvoir envoyer l'enfant à l'école. Alors, il faut plus sensibiliser les parents, mais je crois qu'il sait aussi mieux. Parce qu'il y a ces problèmes d'instruction qui se posent, que les parents aussi soient encadrés dans l'éducation non formelle pour leur permettre de comprendre l'importance d'envoyer l'enfant à l'école. Et vous avez de l'autre côté sensibilisé aussi l'État pour qu'il puisse améliorer les conditions de vie des parents afin qu'ils aient assez de moyens pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. L'ensemble de ces propositions, ça peut nous amener à atteindre cet objectif de l'éducation pour tous, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Merci beaucoup, Placide. Nous avons Omari qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Omari. Omari, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, je vous suis.
Et vous êtes à Kisangani et ensemble nous dégageons les pistes et des solutions pour atteindre cet objectif de l'éducation pour tous. Vous avez suivi notre compatriote de Mbujimaï qui pense qu'il faut, au-delà du fait d'allouer un budget conséquent dans les secteurs de l'éducation, mais il faut aussi sensibiliser les parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école, surtout en milieu rural. Quel est votre point de vue, Omari?
Bon, je suis d'avis avec mon prédécesseur là qui venait de parler à l'essence de sensibiliser les parents. Mais à cela, moi, je voulais juste aborder le problème dans le sens de la régionalisation de l'enseignement. Vous savez, l'essentiel n'est pas seulement d'envoyer plus d'élèves à l'école, mais il faut avoir aussi la qualité d'enseignement. Parce que nous rendons compte à présent que la qualité de l'enseignement tend à être au rabais. Parce que Vous allez à peine comprendre avec moi, monsieur le journaliste, l'enfant de première année, de deuxième, de troisième, qui n'est pas même à mesure d'écrire un, ou soit de lire A. Vous voyez ça aussi, ce n'est pas seulement avoir une masse, une population scolaire un peu élevée, mais il faut aussi avoir la qualité de l'enseignement. Ici, moi, j'aborde souvent dans le sens d'abord de commencer par encadrer d'abord les enseignants. L'encadrement des enseignants au niveau de l'école primaire, vous savez, le personnel enseignant, surtout au niveau de l'école primaire, a vieilli. Une fois, si ces gens parviennent à être retraités, alors ceux qui viendront prendre la relève ne seront pas à mesure de rendre cet enseignement efficace. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord marteler sur les humanités pédagogiques qui commenceront d'abord par apprendre les élèves qui viendront prendre la relève ici comment enseigner. Donc vous avez le problème qui est un peu crucial, c'est que moi je vais un peu marteler, parce que nous rendons compte que ces dernières temps, si on dit l'enseignement est au rabais, c'est d'abord la base, c'est l'école primaire. Parce que si l'élève termine l'école primaire, il pense que l'objectif primordial de l'école primaire, il faut qu'à la qualifier de l'enseignement, il faut que l'élève soit à mesure de bien lire, écrire et calculer. Mais on s'aperçoit que l'élève peut terminer l'école primaire sans pour autant être à mesure de remplir tous ses objectifs. C'est la raison pour laquelle c'est que nous devons faire l'effort de redynamiser pour l'école primaire, faire tout de sorte que l'enseignement soit très efficace, afin que ce dernier puisse être fruitier pour affronter l'avenir.
Merci, merci beaucoup, Omari. Vous pensez qu'au-delà du fait qu'on doit rendre l'éducation accessible à tout le monde, mais il faut aussi que ce soit une éducation de qualité à tout le niveau. C'est pas seulement au niveau de l'école primaire, je peux dire, même au niveau de l'école formelle, l'éducation formelle, il faudrait aussi que ce soit une éducation de qualité qui permette même aux adultes qui vont pour apprendre à lire, à écrire, de pouvoir apprendre cela d'une manière efficace, parce que c'est ça ce qui englobe d'une manière je peux dire ainsi l'éducation. Au-delà de tout, il faut redynamiser l'enseignement, permettre à ce que cette éducation qui va être accessible à tout le monde soit aussi une éducation de qualité. Merci beaucoup, Omari. Vous êtes à Kisangani. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez suivi notre problématique, hein, c'est rendre l'éducation accessible à tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde a besoin de l'éducation. C'est là ça, aussi un des objectifs du millénaire pour le développement. La RDC a souscrit à cela à l'horizon 2015 comme tous les autres pays. Les amis ont proposé, hein, comme notre ami Demboujima qui a pensé qu'au-delà du fait que l'État peut allouer un budget conséquent à l'éducation en ce qui concerne aussi l'éducation formelle, mais c'est important aussi d'instruire les parents qui, à leur tour, vont comprendre l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Notre ami de Kisangani, lui, pense qu'à côté de tout cela, il faut aussi voir la qualité de l'éducation même qui fait l'objet de ces débats. Il faut améliorer tout cela pour atteindre cet objectif d'ici 2015. Au-delà de tout ce qu'ils ont dit, quel est votre point de vue, Omar?
Merci beaucoup, Pierre et Lameji, pour cette parole. Je fais aussi mienne la pensée de mon prédécesseur. Moi, j'ai toujours comparé l'éducation comme un médicament. La maladie ne suffit pas. Encore faut-il donner les médicaments. Encore faut-il que ces médicaments soient bons. C'est dans cette logique que je voudrais féliciter mon prédécesseur pour dire que l'éducation, c'est bien, mais il faudra aussi garantir une éducation de qualité. Cela passe par le recrutement d'un bon personnel et par la rémunération heureuse de ces données. Alors, j'ai un autre point de vue par rapport à cela. Monsieur Pirot, les grands auteurs disent que l'éducation est l'arme la plus puissante pour former l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'accès à l'éducation est un indicateur sérieux du développement. On reconnaît un pays développé par le nombre de ses agents qui sont accessibles à l'éducation. Même dans notre pays, comme un état de droit, la Constitution, à son article 43, dispose que toute personne a droit à l'éducation et l'État doit y pourvoir. Nous comprenons là que tout individu congolais a droit à l'éducation et c'est l'obligation de l'État d'en garantir. Donc la première responsabilité de cette inaccessibilité que nous remarquons aujourd'hui revient d'abord à l'État. Alors qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Malheureusement sur le terrain, les statistiques l'ont démontré, l'UNICEF l'a proclamé, l'accès à l'éducation est un problème sérieux au Congo. Beaucoup de Congolais n'ont pas accès à l'éducation. Pourquoi? Premièrement, c'est le frais de Minerval. Il y a ce qu'on appelle en droit économique le réalisme. Pour fixer un tarif à un citoyen, il faut que ce tarif soit conforme à ses moyens de bord. Vous fixez un minerval qui ne correspond pas à la vie des Congolais. Comment voulez-vous qu'il y ait accès à l'éducation? Il y a un problème sérieux. De deux, il y a un défaut de moyens que dispose l'État. C'est bien d'avoir des théories constitutionnelles qui disent que l'État doit garantir. Mais si l'État n'a pas des moyens pour construire des écoles, ça ne restera qu'un papier vide qui ne sait pas s'écrire. Et de trois, c'est aussi un facteur important, l'inconscience de certains parents, surtout au niveau interne. Ils disent que l'éducation c'est pour les blancs, les filles ne peuvent pas étudier, elles doivent faire ces mariages comme ça, comme ça. Il y a aussi cela. Alors, pour rendre accessible l'éducation au Congo, première solution, il faudra que le gouvernement fasse par la concrétisation des gratuités de l'enseignement primaire, tel que le prévoit la Constitution. Vous avez reçu dernièrement le ministre, il a dit que c'était vrai. Mais si vous faites un tour sur le terrain, beaucoup d'écoles n'ont pas encore la gratuité de l'enseignement. C'est la première chose au niveau de l'école primaire qui rendra accessible l'éducation. Deuxièmement, il faudra améliorer, M. Piro, les conditions de vie des Congolais. Pour envoyer l'enfant à l'école, il faut des moyens. Il faut acheter l'uniforme, il faut acheter les cahiers, il faut acheter les habits, il faut chaque jour lui donner quelque chose à manger. Et sans moyens, on ne peut rien faire. Donc ça passerait aussi par l'amélioration des conditions de vie des citoyens, car une fois les moyens réunis, ils peuvent envoyer. De deux, le gouvernement doit élaborer un programme spécifique parce que l'analphabétisme est actuellement à son paroxysme. C'est l'article 44 qui le dit. Lorsque dans un état on remarque qu'il y a vraiment un taux élevé d'analphabétisme, il faut qu'on prenne des mesures spécifiques pour adapter ceux qui ont déjà vieilli ou ceux qui ont grandi à un programme spécifique. Et pour finir, M. Piro, je voudrais que le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, ne se limite pas seulement à voir ses intérêts, mais aussi à voir l'intérêt de nos enfants. Car sans éducation, la nation est pourrie. Il faudra qu'on initie des lois pour promouvoir l'enseignement et qu'on affecte un budget raisonnable au secteur de l'éducation. Et pour finir, vraiment, je chute par là, il faut qu'on adapte les écoles aux conditions de certaines personnes. Aujourd'hui, on a les conditions des handicapés, des sourds, des aveugles. Ceux-là n'ont pas vraiment accès à l'éducation. Il faudra aussi penser à eux. Il y a des écritures braille. Je me suis rendu compte que des écoles adaptées aux personnes avec handicap ne sont pas nombreuses. Mmh. C'est aussi l'une des causes qui fait qu'on n'ait pas accès à l'éducation. Si l'État, dans la prochaine, dans les prochains avenirs, pardon, peut penser à des écoles appropriées avec des brailles. J'ai été étonné, M. Perrault, de voir sur TV5 un avocat aveugle. Mais ce qui n'est pas le cas aussi aujourd'hui. Il faudra aussi penser aux personnes avec handicap. Et ce n'est pas là qu'on peut, n'est-ce pas, rendre vraiment accessible l'éducation congolaise. Mmh. Je vous remercie, M. Pérou.
Merci beaucoup, Omar. C'est vraiment important ce que vous avez dit. Au-delà de l'éducation formelle, vous avez décrit ce qu'il faut faire, les pistes et des solutions. Il y a la concrétisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Vous avez insisté sur les moyens que doivent avoir les citoyens pour envoyer les enfants, bien sûr, à la formation, à l'éducation. Mais il faut aussi des programmes spécifiques pour ceux-là qui ont échappé, qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter l'école à bas âge. Il faudrait qu'on ait de centres de formation pour l'alphabétisation. Et vous insistez aussi sur les écoles de personnes vivant, adaptées aux personnes vivant avec handicap. Vous dites qu'il n'y en a pas assez. Parce que quand on dit l'objectif éducation pour tous, c'est que toutes les couches de la population, chacun, en ce qui les concerne, doit avoir accès à l'éducation. Vous avez exhorté les uns et les autres à arriver à cela, le moyen qu'il faut mettre. Et on pourra avoir maintenant une population formée, éduquée d'une manière complète. Et vous l'avez dit, elle doit être une puissance, quoi. Quand la population est éduquée d'une manière complète, toutes les couches de la population. Merci beaucoup. Omar, pour cette proposition, nous avons Rajabou qui nous appelle de Kindu et Frédéric qui est à Kananga au Kasaï occidental. Je rappelle encore le numéro de contact 081 890 63 15. C'est pour intervenir en direct. Quelles sont pour vous les mesures à prendre pour rendre l'éducation accessible à tous d'ici 2015, comme la RDC a consacré cela ensemble avec les autres pays dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement? Plusieurs propositions dans cette émission, les vôtres aussi sont le bienvenu.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs.
Ratiabou, vous nous appelez des Kindou dans la province de Maniema. Bonjour. Ratiabou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous les autres auditeurs qui m'écoutent en ce moment.
Vous avez suivi les uns et les autres. Nous dégageons ensemble les pistes, des solutions pour atteindre cet objectif de l'éducation qui doit être accessible à tout le monde selon les objectifs du millénaire pour le développement. Qu'est-ce qui doit être fait, Ratiabou?
D'abord, avant d'arriver, monsieur le journaliste, et avant d'arriver aux propositions, je voulais rappeler que l'éducation, vraiment, c'est un parmi les moyens pour former un adulte responsable dans la société. Vous savez, alors, pour y arriver maintenant, pour arriver aux objectifs, je pense qu'il y a certaines difficultés. Les difficultés, c'est par exemple, vous savez que, par exemple, ici chez nous, en l'Est, il y a l'insécurité. Et l'insécurité, là, ceux qui sont plus victimes, ce sont les femmes. Alors que l'éducation, elle, commence à partir de la famille. On a dit que une femme éduquée, c'est une femme qui est utile pour toute la nation. Mais quand on commence à s'attaquer à la femme, il doit, à son tour, aider les enseignants à enseigner l'enfant. Vraiment, on s'attaque directement à l'éducation. C'est pour cela, moi, je considérais que on commence d'abord par rétablir la sécurité, parce que là, il y a l'insécurité, c'est vraiment difficile, monsieur le journaliste. Et puis, vous savez, la plupart de la population congolaise est rurale. Et lorsque vous voyez partout dans notre pays, partout là où il y a l'insécurité, c'est dans les zones rurales. Vous savez, on est au Kivu, au Sud, au Kivu, au Katanga, partout là-bas, même ici, c'est nous, au Maniema, c'est dans les régions reculées, là où il n'y a pas d'école, et c'est là où il y a aussi les gens qui prennent des armes. C'est pour cela qu'il faut d'abord lutter contre l'insécurité. Et puis, comme c'est l'éducation, il y a l'interactivité, il y a l'enseignant de l'autre côté, l'enseignant de l'autre côté. Il faut que l'enseignant aussi soit aussi dans les conditions qui lui permettent bien donner cours aux enfants. Parce que quand il n'est pas bien payé, quand par exemple il est très loin de l'école et il n'a pas un moyen de déplacement, vous voyez que tout ça, ça cause vraiment des difficultés pour que l'enseignement soit bien donné. C'est pour ça, tout l'environnement là, tout l'environnement qui tourne autour de l'enseignement vraiment doit être amélioré pour que la situation soit tirée au clair, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Ratiabou. C'est vraiment un volet important hein, dans cet échange autour de l'accessibilité de l'éducation. Et vous insistez sur l'insécurité. Cela veut dire qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans les zones où il y a beaucoup de cas d'insécurité. Vous avez parlé du nord Kivu, du sud Kivu, de la province du Katanga, le Maniema, beaucoup d'autres endroits où, avec l'insécurité, il y a beaucoup de difficultés de pouvoir organiser l'éducation, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, parce que vous avez dit, quand il y a l'insécurité, on s'attaque aux femmes dans les milieux ruraux où il y a beaucoup de Congolais vivent. Et quand la femme est attaquée, ça dit qu'il y a déjà un péril. On ne peut pas parler de l'éducation, l'accès à l'éducation, si la femme elle-même vit en insécurité. Vous avez fait allusion à cette phrase d'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Vous pensez qu'il faut concentrer beaucoup d'efforts dans la lutte contre l'insécurité dans les zones de l'Est pour permettre à ceux qui vivent dans le milieu rural de vivre en paix, et comme ça il y aura la possibilité d'avoir accès à l'éducation, sans oublier bien sûr la prise en charge de ceux qui assurent cette éducation là aux différents niveaux. Merci beaucoup Ratiabou de cette intervention de Kindou au Maniema. Frédéric, vous êtes à Kananga au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à toute la partie, à tous les auditeurs qui nous suivent à travers la RDC.
Vous avez suivi notre ami Dembujimaï au début de cette émission, c'était Placide. Hein, il est revenu sur les problèmes de l'exploitation minière dans les zones rurales, qui y a aussi un grand frein pour l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, les enfants comme les adultes, qui ne pensent pas aller à l'école ou aller à être formés, et parce qu'ils ont à côté une exploitation minière qui leur permet d'avoir de l'argent. Et ça fait qu'il y a ces problèmes sérieux de l'accès à l'éducation dans ces milieux-là. Et vous êtes dans la même zone, si on peut dire ainsi, hein. Vous êtes au Kassai occidental, et lui, il pense qu'il faut un grand travail de sensibilisation dans le milieu rural et aussi auprès des parents pour comprendre l'importance d'envoyer les enfants à l'école et surtout aussi l'importance d'aller à l'école au lieu de s'adonner aux activités minières, par exemple. Quel est votre point de vue eu égard à ce qui a été annoncé par Frédéric, par Placide dans cette émission au début, Frédéric?
Merci beaucoup, Pierrot et Lamézi. Placide a totalement raison. Mais je voudrais que sensibiliser, c'est aussi très important. Mais aussi, une chose est vraie, Pierrot et Lamézi. Les zones à conflit, bien avant, les carrés miniers, comme vous l'avez évoqué, les jeunes aujourd'hui n'ont pas accès à l'éducation parce que vous estimez, selon Placide, que les jeunes, ça donne plus à ces travaux-là que de privilégier l'éducation.
Mmh.
Je commencerai bien avant de faire mes propositions parce que le gouvernement attend de nous ces propositions. Je voudrais que je dise que le problème de l'éducation, dans la plupart des pays, Pierrot, c'est un problème de l'État. Ce n'est pas un secret pour personne. Nous avons vécu dans ces pays, toujours dans ces pays. Moi, je prends juste l'exemple d'Isaïe. L'histoire nous inspire. Ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, vous pensez que la sensibilisation est importante, oui, moi, je ne peux pas refuser cette dimension. Mais je crois que les gouvernements doivent déjà comprendre que les problèmes de l'éducation, c'est un problème d'abord que l'État peut prendre avec toute responsabilité. Mais si l'État ne sait pas justement remettre dans de bonnes conditions le prestataire d'abord, c'est un problème. Je vais encore évoquer une dimension. Combien d'écoles l'État a dans les milieux ruraux? Combien d'écoles? Voyez aujourd'hui, moi je prends juste l'exemple des zones à conflit. Les enfants, les jeunes filles parcourent de très grandes distances pour aller prendre les instructions et les éducations dans ces écoles-là qui sont à une grande distance d'eux. Maintenant, au retour, ils sont violés. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Moi, je pense que jusqu'ici, le problème est très sérieux parce que nous sommes en train de le vivre ici dans ce pays. Le gouvernement doit déjà comprendre que dans les milieux ruraux, il faudra avoir beaucoup d'écoles. Moi, je salue quand même les efforts parce que tout à l'heure, d'ici là, j'ai suivi la ministre de l'Éducation provinciale parler dans son point de presse récemment qu'on va construire les écoles dans plus de 100 écoles dans des histoires comme ça. Je crois que c'est déjà un atout. Si dans ces milieux-là, il y a les écoles, maintenant je vais rentrer à une proposition émise par l'un de mes prédécesseurs quand il a dit il faudra, Pierrot, que les fonctionnaires, qu'on revoie justement les conditions salariales de prestataires, de fonctionnaires. Mais je crois que c'est aussi important parce que si moi je suis responsable, je suis payé par le gouvernement comme il faut, je ne vois pas pourquoi mes enfants ne vont pas étudier. Mm-hmm. Je dirais qu'ici nous sommes dans la zone, comme Placide l'a dit le premier intervenant, où les jeunes s'adonnent bien sûr aux travaux miniers et qui privilégient l'éducation. Mais je crois que si cet enfant-là a une instruction de la part de son parent, lui dit il faut aller à l'école, il voit que je paye l'argent à l'école et les parents sont payés. Mais je ne vois pas cet enfant-là, je ne vois pas ces jeunes-là aller se donner aux travaux miniers. Je crois que le problème est sérieux, Pierrot.
Merci, voilà.
Déjà comprendre,
merci.
Implanter les pays, si je ne sais pas mes résumés, implanter les pays dans ces zones, et les écoles dans ces zones-là, et aussi répondre positivement aux conditions salariales et des prestataires, je crois que c'est important. Nous allons aider le pays à avoir un nombre important des enfants qui vont avoir accès à l'éducation, comme nous le souhaitons, Pierrot et Lamézi.
Merci beaucoup, Frédéric. Vous pensez qu'il y a, au-delà de tout, en ce qui concerne les milieux ruraux, il faut plus rapprocher les écoles de la population. Vous avez évoqué ici la situation des zones en conflit, où des fois il y a des enfants qui doivent parcourir des longues distances pour aller à l'école, les filles qui sont exposées au viol. Pourquoi? Parce que l'école se trouve à une distance, à une longue distance de la maison. Et vous pensez qu'il faut, de toutes les façons, il faut améliorer la situation. Merci beaucoup, Frédéric. Nous avons Benoît à Kinshasa et M. Odo à Kinshasa. Nous allons lui raccorder la parole.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons Benoît qui est ici à Kinshasa. Benoît, bonjour. Benoît, si vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur ou l'arrêter carrément, hein, parce que là, on aura beaucoup de difficultés à communiquer. Vous pouvez suivre facilement, hein, ce que vous dites à travers votre téléphone portable. Arrêtez carrément votre poste récepteur. Et comme ça, on va communiquer sans ce retour sur les antennes. Nous sommes en train de dégager ensemble les pistes, des solutions pour arriver à cette éducation accessible à tout le monde selon les objectifs du millénaire pour le développement. Benoît, si vous pouvez arrêter votre carrément votre poste récepteur, ça va nous permettre de pouvoir bien évoluer, s'il vous plaît.
Oui, je me suis déjà déplacé.
Oui, allez-y, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Oui, moi... Avant toute chose, avant de donner mes pistes de solutions par rapport au sujet, je prends d'abord en doute les statistiques données par notre secteur éducatif, de dire que non, aujourd'hui on arrive déjà à atteindre 87% pour les pourcentages total de toute la République selon les enfants scolarisés. Moi je prends cette statistique en doute. Pourquoi? C'est parce que nos instructeurs d'aujourd'hui ne circulent qu'en ville. Ils ne veulent pas aller au village dans des milieux très reculés pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces milieux-là et voir comment l'éducation est prise en charge de l'autre côté. Mais pour atteindre l'objectif poursuivi, qui est d'arriver à atteindre 100% comme on le présume par le secteur éducatif, moi je trouve ça c'est un engagement de tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire l'État et les parents. L'État, pourquoi? L'État, premièrement, doit d'abord payer les parents. C'est-à-dire payer les parents, que les parents soient d'abord bien rémunérés. À partir de ce salaire-là, les parents auront la capacité de payer les frais scolaires pour les enfants. Deuxièmement, ouvrir les écoles dans les milieux les plus reculés. Monsieur Pierrot, si vous partez dans les milieux très reculés, je peux vous dire que vous pouvez parcourir 100 à 150 km pour atteindre une école. C'est seulement en ville, si vous voyez les écoles, vous faites à deux pas, il y a une école, malgré que ces écoles-là ne répondent pas aux normes.
Mm-hmm.
Troisièmement, l'État doit créer les emplois pour ceux-là qui terminent. Vous trouvez aujourd'hui, malgré la statistique de cette année, nous trouvons que non, les élèves de 6e n'ont pas bien pressé au test, comme on venait de débattre de ce sujet-là hier. Mais ceux-là qui ont terminé, moi je vous dirais, peut-être avant 1900, avant 2000, jusqu'à là, ils n'ont pas de boulot. À partir de ces problèmes, les parents se découragent, même d'envoyer même les enfants à l'école, non? Même si toi tu vas te dire, voyez ton grand frère, ceux-là qui ont terminé avant vous n'ont pas eu de travail, même toi aussi, même si aujourd'hui tu vas travailler et tu vas terminer, tu vas étudier, tu n'auras pas de boulot. Et aussi, l'État doit adapter l'éducation aux besoins de la société. Aujourd'hui, vous voyez que non. Tout le monde se prétend être au bureau. Il y a beaucoup de travaux que nous pouvons faire. Des travaux, par exemple, il y a la mécanique, l'ingénierie, presque tous les travaux là. Aujourd'hui, l'État, notre enseignement ne se focalise que si peut-être je fais la commerciale, il faut que je sois, par exemple, comptable dans une banque, que je sois un gérant dans une entreprise, pareil. Dans ce sens-là, vous voyez que non, notre éducation n'a pas vraiment la capacité de former des cadres qu'il faut, ou bien même si les universitaires n'ont pas la capacité, quand on parle d'un universitaire, c'est une personne qui a la capacité d'initier. Et aujourd'hui, ici au Congo, nous n'avons pas ce genre-là. Pourquoi? Parce que non, notre éducation n'est pas adaptée aux conditions, aux réalités de la nation. Pour les parents, je parle des parents, pourquoi? Les parents d'aujourd'hui, ils ont perdu la conscience.
Oui, Benoît, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens sur notre standard. Nous devons aussi accorder la parole tout à l'heure à M. Odon Moulanda, qui nous allons d'ailleurs aussi libérer, parce que lui, il est en train de travailler en ce moment même aux matières qui touchent à l'éducation. Si je peux résumer ce que vous avez dit, c'est important, mais vous avez mis en doute les chiffres de 87% des taux de scolarité selon le ministère de la PSP. Selon vous, vous pensez que ces chiffres n'est pas vraiment réel selon le problème qui se pose sur le terrain, mais du moins vous avez proposé qu'il faudrait plus rapprocher l'école de la population, surtout en milieu rural où les gens doivent parcourir des fois 100 à 150 km pour trouver une école, où il faut qu'on ait des écoles en milieu rural, beaucoup d'écoles mais aussi ces écoles qui doivent répondre aux normes. Il faut aussi adapter l'éducation pour qu'elle puisse répondre vraiment aux besoins de la population. Et ça, vous avez sensibilisé l'État qui doit aussi améliorer les conditions de vie de la population pour que les gens aient les possibilités d'envoyer les enfants à l'école. Comme ça, tout le monde pourra, en son milieu, là où il est, et selon ses besoins, accéder à l'éducation. Merci beaucoup. Benoît, nous restons à Kinshasa. Monsieur Odo Molanda, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en éducation. S'il y a moyen aussi de diminuer le volume de votre poste récepteur, si vous en avez à côté, vous êtes expert en éducation. Et nous dégageons ensemble avec les auditeurs les pistes et des solutions pour arriver à cet objectif du millénaire pour le développement qui est l'éducation accessible à tous. Il ressort de notre entretien depuis le début de l'émission avec les auditeurs comme Omar de Kinshasa qui a pensé qu'il faudrait un programme cohérent, un programme qui puisse permettre à ce que chaque Congolais, quel que soit son niveau, puisse avoir accès à l'éducation. Et vous, les experts dans ces domaines, comment on doit structurer les différentes interventions dans le secteur de l'éducation pour arriver vraiment à rendre cette éducation accessible à tout le monde selon les objectifs du millénaire pour le développement?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En passant, je salue tous les auditeurs de la Radio Okapi. Je pense que le problème qui est évoqué à ce niveau-là, c'est d'abord le problème de la professionnalisation de l'enseignement. Aujourd'hui, lorsqu'on commence un cursus scolaire, il faudra que les gens comprennent que l'objectif, ce n'est pas que tout le monde aille à l'université, qu'à chaque niveau donné, que l'être humain soit utile à quelque chose. C'est ainsi que ce que les autres évoquent, c'est vraiment réel. Nous devons tout faire pour rapprocher les écoles des participants qui sont à tous les niveaux, dans tous les villages, dans tous les secteurs et districts. Parce que l'objectif fondamental que nous devons comprendre, c'est que l'éducation est à la base de tout. Aujourd'hui, nous avons des ministres, nous avons des députés, des PDG, des ceci ou cela, mais lorsqu'on ne passe pas par l'école, tout est néant. C'est comme ça, un effort doit être consenti pour prioriser du moins l'enseignement. Il se pose déjà un problème de budget qu'il faudrait relever. Il se pose le problème de motivation des enseignants, il se pose le problème de respect des programmes, il se pose aussi le respect des engagements des parents pour scolariser leurs enfants. Donc aujourd'hui, c'est une matière qui demande la conjugaison des efforts de toute la communauté pour que nous comprenions que pour tout le développement de notre pays, nous devons vraiment nous investir tous au niveau de l'éducation. Nous avons un vaste programme avec les 5 chantiers. Mais les 5 chantiers doivent utiliser des hommes. Ces hommes-là sont formés dans les écoles. Mais si les écoles ne jouent pas leur rôle comme ils se doivent, c'est encore une difficulté. Donc, les infrastructures doivent être mises à profit pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions. Le paiement des enseignants doit se faire de manière aussi décente pour que la personne qui est en train de forger puisse se retrouver dans ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est la valorisation même de la fonction enseignante. Et il y a aussi le corps des inspecteurs qui doivent se mettre en branle pour contrôler, faire le suivi sur le terrain de tout ce qui se passe. Donc vous comprenez de manière ramassée que l'apport de l'éducation dans le développement du pays est vraiment de grande importance et personne ne peut le nier.
Mais quand vous regardez, selon ce qu'il y a des auditeurs qui se sont inquiétés par rapport à l'absence du programme en ce qui concerne l'éducation aussi non formelle, parce que selon le rapport Mix 2010 de l'UNICEF avec le ministère du Plan, on va se rendre compte que dans le milieu rural, surtout en ce qui concerne les enfants des mères moins instruites, ont des problèmes sérieux d'aller à l'école. Mais là aussi, il y a un manque criant. Si déjà on a des problèmes d'avoir les écoles dans les milieux ruraux à proximité de la population, mais il y a aussi un problème de centres de formation pour l'alphabétisation, parce que quand les parents eux-mêmes n'ont pas eu accès à l'éducation, il y a un problème d'alphabétisation qui se pose. Il y a aussi un problème de la compréhension même de l'importance d'aller à l'école. Mais au niveau où vous travaillez, comment se structure un peu ce domaine de l'éducation non formelle, ce domaine d'alphabétisation qui semble être presque oublié, à part quelques personnes qui se débrouillent tant mieux que mal pour le faire?
Ok, c'est peut-être une question de sous-information. En ce qui concerne l'enseignement de manière générale, pour tout ce qui concerne l'enseignement formel, cela relève du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement non formel, nous avons le ministère de la Jeunesse nous avons le ministère des Affaires sociales qui encadre aussi les élèves qui ont des problèmes.
Mm-hmm.
Mais il faudra reconnaître aussi que nous avons fait des travaux conjoints entre le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'FSP et le ministère des Affaires sociales pour monter ensemble un programme de rattrapage scolaire. Donc, ce programme-là rétrécit le nombre d'années au lieu de 6 ans de formation comme nous le faisons au niveau de l'EPSP, mais il y a un programme de 3 ans qui s'échelonne par rapport aux enfants qui n'ont pas suivi le cursus normal. Donc, il est question maintenant d'entrer en communication avec les experts de ces trois ministères pour se rendre compte qu'il existe un programme de rattrapage scolaire.
Mais il y a des auditeurs qui sont revenus, par exemple, sur la situation dans les zones d'exploitation minière, hein, où plus les enfants ont tendance à travailler qu'à aller à l'école. Et effectivement, quand on a déjà, à bas âge déjà, on travaille, on peut aller dans une mine de diamants, s'attraper une graine et avoir de l'argent qu'un adulte qui a terminé les études ne peut pas avoir. Vous voyez déjà que ça pose un problème. Alors, comment on doit, au niveau de la société, structurer un peu la sensibilisation auprès des parents qui vivent dans les zones minières, qui voient que leurs enfants peuvent déjà apporter l'argent à la maison sans qu'ils soient partis à l'école? Et dans ces niveaux-là, comment faudrait-il remonter la pente pour permettre à ce qu'il y ait ces changements de mentalité dans les milieux d'exploitation minière, comme l'ont relevé deux auditeurs, celui de Kananga au Kassai occidental et celui de Mbujima au Kassai oriental?
Je pense que l'effort, c'est toute la communauté qui doit s'impliquer dans ce travail-là. D'abord, une sensibilisation des parents, une sensibilisation des autorités à tous les niveaux pour qu'on arrive à comprendre que l'utilisation des enfants en âge scolaire dans les mines crée un danger d'abord pour eux-mêmes et un danger pour la communauté. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a des expériences de triste mémoire. Des enfants qui ne vont pas à l'école. Mais dans l'entretemps, ils grandissent. Ces mines-là n'auront même plus les mêmes valeurs jusque les années qui viennent. On peut se retrouver dans une contrée où on n'a plus à exploiter les mines et on a de l'autre côté un nombre important d'analphabètes. Donc la communauté doit s'impliquer dans tout ce travail. Il y a d'abord la loi portant protection de l'enfant qui interdit aussi l'utilisation des mineurs dans ces mines. Moi, je pense qu'il est indispensable que toutes les autorités, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, et la communauté en général, puissent s'impliquer dans cette tâche de sensibilisation.
Mmh.
Parce que, comme nous l'avons dit, que les gens comprennent que l'éducation vaut plus que tout. Et d'ailleurs, au niveau du ministère de l'FSP, il y a d'ailleurs des efforts en collaboration avec l'UNICEF, où il y a des projets où on dit tous les élèves à l'école. Au départ, on a dit toutes les filles à l'école. Mais il s'est posé des questions, dit, bon, quand les filles vont à l'école et les garçons, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Mm-hmm.
Maintenant, dans le grand progrès, on dit tous, garçons comme filles à l'école.
Mm-hmm.
C'est le grand travail qu'il faut faire. Il faut valoriser la scolarité de la fille. Il faut valoriser aussi la scolarisation du garçon.
Mmh.
Donc, c'est un travail de la communauté qui doit s'impliquer dans cette sensibilisation.
Oui, une dernière question, M. Audon, parce que vous avez du travail. Il y a les auditeurs qui sont revenus, hein, qui ont dit, mais il faudrait que l'éducation elle-même soit utile à la communauté. C'est un problème aussi d'orientation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on a encore ces principes, vous qui êtes expert en éducation, d'avoir des conseillers, de pédagogiques, des gens qui orientent les enfants pour savoir, toi tu étudies, tu peux faire ça à l'école secondaire, voilà les humanités que tu peux suivre, voilà la section que tu peux faire, si jamais tu veux aller à l'université, voilà ce que tu peux faire. Comme ça, on pourra aussi avoir une formation, une éducation qui répond aux besoins réels de la communauté. Est-ce que cela existe encore aujourd'hui dans le système éducatif?
L'orientation scolaire, c'est une question que vous évoquez maintenant, qui a tout son besoin d'or. L'orientation scolaire existe bel et bien au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, mais il faut reconnaître aussi qu'au niveau de l'intérieur, il y a un effort qu'il faudra faire pour l'implantation de ces services à tous les niveaux. Mais dans la ville-province de Kinshasa, chaque école secondaire du moins dispose d'un ou de plusieurs conseils d'orientation selon sa taille. Donc le problème que vous évoquez, c'est un problème réel. Il y a une réforme envisagée au niveau du ministère que je n'ai pas la compétence d'annoncer, mais c'est qu'il y a un effort qui s'est fait pour que l'on puisse voir, parce que ce que vous évoquez là-bas, c'est capital. Il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. il faut tenir compte des aptitudes, des intérêts, du goût de l'élève pour l'aider à s'orienter vers une option ou section d'études donnée. Mais aujourd'hui, quand on fait des choses vague que vague, on a les résultats. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont formés, mais qui se retrouvent sur la rue comme cambistes parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont étudié dans telle option. Je peux vous dire, comme l'autre fois au cours de l'émission de la radio Capi aussi, un
donc,
enfant
Capi
qui
service,
a fait
oui.
l'électricité, qui va se retrouver à l'université au niveau de la faculté des sciences politiques administratives. Donc vous comprenez que c'est un problème réel que vous évoquez. Il revient aux autorités aussi de s'impliquer pour valoriser aussi la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle dans notre pays.
Merci beaucoup, Monsieur Odon Moulanda, d'avoir accepté d'accorder ces quelques minutes à parole aux auditeurs, ensemble avec les auditeurs, sur ces sujets importants qui est l'accès de tous à l'éducation à l'horizon 2015 selon les objectifs du millénaire pour le développement. Merci beaucoup, vous êtes expert en éducation. Nous continuons cette émission avec Jean qui est ici à Kinshasa et Auguste qui est à Cupit. Nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore le numéro de contact pour intervenir en direct, 081-890-6315.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Jean, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour ces parents auditeurs.
Vous avez suivi notre problématique en la célébration de la journée internationale de l'éducation. Comment rendre l'éducation accessible à tout le monde, c'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. La RDC a souscrit à cela à l'horizon 2015. Beaucoup de propositions dans cette émission, mais aussi un point de vue d'un expert, de ce qui doit être fait pour arriver à cela. À ce niveau du débat, quelle est votre contribution?
Okay, merci Pierrot de m'avoir accordé la parole. Malheureusement, le spécialiste est parti. Donc, je voulais lui poser une question. Mais aussi, il devait nous dresser le bilan dans le premier discours qu'on avait dit, toutes les filles à l'école. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le bilan peut-on tirer de cela? Le résultat? Est-ce qu'on a comptabilisé le nombre de filles qui étaient inscrites? Et qui ont évolué, elles sont à quel niveau aujourd'hui, avant de dire aujourd'hui, maintenant, c'est le tour des garçons, tous les garçons sont à l'école, disons tout le monde à l'école. Mais c'est quand même le manque que nous avons toujours dans notre pays. Nous faisons de l'histoire, mais on ne fait jamais le bilan pour que si on relance notre activité ou notre programme, on puisse avoir déjà les retombées de ce qu'on avait fait avant pour corriger, pour ne plus tomber dans les erreurs passées. Alors, il y a le problème aujourd'hui, c'est que qui éduque? Parce que Pierrot connaît, dans 10 ans, dans ce pays, il y aura un problème sérieux des formateurs, des agents de l'éducation, parce que le niveau que nous atteignons aujourd'hui, je regrette beaucoup, parce que dans les écoles, vous avez plus de diplômés que d'intellectuels. Et c'est un danger permanent. Et une autre question, que non, on forme pour quel but? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui va aller à l'école, d'accord. Mais quelle est la nécessité? On a besoin de combien de diplômés pour quelle entreprise ou quel domaine précis? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va à l'école, on va à l'université, aux universités supérieures, mais on ne sait pas, après avoir terminé les études, vous allez où? On forme plus de chômeurs. Alors ça n'a pas de sens, à mon avis. Peut-être c'est que, moi je pouvais dire, que vous pouvez peut-être faire de sorte que qu'on apprenne à chacun et chacun sache au moins lire et écrire à la limite. Parce que nous n'avons pas la politique de création, pas seulement d'emploi, mais d'orienter.
Jean, s'il vous plaît. Formons. Oui, Jean, s'il vous plaît. Quand nous parlons, en fait, vous voyez, nous n'avons pas structuré l'émission en parlant de l'enseignement primaire, secondaire. Nous parlons de l'éducation. Cela veut dire que nous englobons tout ce qu'il y a de l'éducation, comme on dit, formelle, l'éducation non formelle. Cela veut dire qu'il y a ce que vous avez dit, apprendre quelqu'un à lire et écrire. Les adultes aussi ont besoin de l'éducation. Les enfants ont besoin de l'éducation. Mais chacun, à son niveau, les personnes vivant avec handicap ont besoin de l'éducation. question parce que nous ne voulons pas restreindre le débat uniquement à la formation au niveau de l'université, au niveau des sections, savoir ce qui doit être fait, parce que là nous risquons de croire qu'il faut sélectionner quelques personnes seulement qui ont droit, qui doivent avoir cet accès-là. Mais l'idée, c'est d'avoir le maximum de personnes qui ont appris. Et le problème maintenant doit se différencier au niveau de l'apprentissage. Parce que les gens risquent de croiser les bras pour dire, voilà, à ce niveau, ça ne nous concerne pas. C'est voilà un peu l'idée en parlant de l'accessibilité de tout le monde à l'éducation, Jean.
Je comprends. Là, le problème, c'est que non, même au niveau primaire aujourd'hui, nous voyons à Kinshasa, je peux vous avoir montré même il y a la télévision à un moment donné, où dans une école, chaque jour, pour entrer en salle de classe, vous payez 100 francs. Comme un minéral. Chaque jour, un élève doit venir à la maison avec 100 francs. À la capitale, dans la périphérie ici. Imaginez-vous. C'est-à-dire que les personnels qui travaillent dans cette école-là ne se retrouvent à rien. Et quelle éducation doit donner à la base? Parce que l'école primaire, c'est la base de toute éducation. Si vous ratez, c'est fini. Le reste de la vie, c'est un des blabla. Et aujourd'hui, nous avons la manie de dire que la corruption a déjà commencé au niveau de l'école primaire, voire même maternelle. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous avons un danger permanent dans ce domaine de l'éducation. Et le gouvernement a l'obligation de réformer le secteur de l'éducation, surtout l'éducation primaire, parce qu'au niveau secondaire, on ne peut plus vraiment faire, vous êtes au niveau de troisième humanité, vous retournez à l'école primaire. Donc la base souffre sérieusement. Et à l'université, nous avons le type d'étudiants et d'élèves que nous avons. Alors, merci, monsieur.
Merci, Jean. On est d'accord qu'il faut, au-delà du fait de rendre cette éducation accessible à tous, mais il faut aussi améliorer la qualité de l'éducation en question. Et vous avez insisté sur l'obligation qu'a le gouvernement de pouvoir réformer le système éducatif, surtout au niveau de la base. Cela est très important. Merci beaucoup. Ogu, vous êtes à Kikwit dans la province de Bandundu. Bonjour, Ogu.
Bonjour, monsieur Thiro et la Mengi, qui salue aussi notre invité. Je n'oublie pas de saluer tous les auditeurs de la fréquence de la paix qui nous suivent en ce moment.
Et vous avez suivi notre problématique, il faut rendre l'éducation accessible à tous. On a essayé de clarifier aussi pour Jean. Nous focalisons pas seulement sur ceux qui sont entrés aller à l'école formelle, mais aussi ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ont besoin de lire et d'écrire, ceux qui suivent le programme d'alphabétisation. Cela entre dans ce programme global de l'éducation. Alors il faut rendre cela accessible à tous les Congolais. Qu'est-ce qui doit être fait, Ogu?
Merci beaucoup, M. Pierrot, pour la question. Ma préoccupation par rapport au sujet du jour va s'atteler autour de quatre points qui doivent appeler aussi problématiques. Premièrement, les parents ou la famille. Deuxièmement, de la personne en question qui doit recevoir l'éducation et d'aider des chefs d'établissement, scolaires ou enseignants. Et quatrièmement, c'est l'État lui-même. Quant aux parents, M. Thiro, ils sont premiers responsables et ils sont à la base de l'éducation et à la formation des enfants, non seulement des enfants, mais de ceux qui sont en train d'encadrer dans les familles. Mais nous constatons avec amertume combien ces derniers sont démissionnaires et irresponsables dans l'éducation des enfants, et sans toutefois parler des enfants seulement, mais de toute personne qu'on doit encadrer. Car les parents doivent donc prendre leurs responsabilités à cœur, faire un suivi sérieux à l'école et en famille. Et de deux, quant à celui qui doit recevoir l'éducation, M. Thiro et la Mengi, il doit aussi savoir qu'il est lui-même, il doit comprendre qu'il est lui-même au centre de sa formation et de sa réussite. Il y a un adage qui dit, viser un but, c'est renoncer aux accessoires. C'est très important. Et maintenant, je vais aussi parler à ceux qui dispensent, donc qui doivent distribuer, soit contribuer à cette éducation-là. Donc, ces derniers doivent, là je parle des parents ou des chefs d'établissement, l'invité venait de dire qu'il faut un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne sais pas, M. Pirou, si vous parlez par rapport à Kinshasa seulement, mais si vous parcourez l'intérieur des pays, qu'est-ce que nous voyons, M. Pirou? C'est alarmant. Vous avez remarqué qu'un D4 qui est chef d'établissement primaire, quelqu'un qui n'a pas un diplôme des études supérieures, qui est un chef d'établissement secondaire, bon, quelle formation va-t-il donner? Et pourtant, nous comprenons que ces derniers doivent bien contrôler la qualité d'enseignement
et d'enseignants dispensés aux gens qui en ont besoin. Et ils doivent veiller sur la régularité des présences des élèves ou des gens qui reçoivent l'éducation et contacter les parents en cas d'irrégularité.
Mmh.
Et la grande problématique ici, M. Pierrot, et la mairie, c'est au niveau de l'État. Vous savez, M. Pierrot, l'État congolais est beaucoup plus à la base de l'éducation et en cas de faute, il vient à la base de l'échec. Il doit ainsi assurer un bon salaire aux enseignants, donc à ceux qui doivent contribuer et dispenser cette éducation et encourager pour une formation fiable. La paix doit être régulière et à temps. Voilà, M. Pierrot, si notre État faisait ainsi, cela pourra contribuer à tenter d'atteindre notre objectif.
Merci.
Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Auguste. Vous êtes à Kikwit. Quatre problématiques. Vous êtes adressé aux parents qui doivent avoir, qui ont la responsabilité non seulement d'envoyer les enfants à l'école, mais de les éduquer aussi en famille et d'encadrer toute personne sous leur toit. Les personnes qui doivent être encadrées, il faut les conscientiser pour prendre leurs responsabilités, mais aussi renforcer la formation, la qualité de ceux qui doivent dispenser cette éducation, mais aussi l'État qui doit prendre ses responsabilités en améliorant les conditions de la formation pour permettre à ce que les gens soient puissent avoir l'accès à l'éducation. Ces quatre groupe, si chacun prend ses responsabilités, on peut atteindre l'objectif de l'éducation accessible à tout le monde d'ici 2015. Nous allons pour cette première partie terminer avec Modeste qui nous appelle des Kananga parce qu'on va écouter tout à l'heure le flash information de Radio Capi. Modeste, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour Pierrot Lamenti. Bonjour tous les auditeurs de Radio Capi. Précisément, c'est des Kananga.
Ils vous suivent. Et qu'est-ce que on doit faire pour arriver plutôt à avoir une éducation accessible à tous, Modeste?
En fait, je pense qu'avant de passer aux moyens ou aux astuces pour atteindre les objectifs visés dans la Journée internationale de l'éducation, il m'est impérieux, M. Pierrot Lamenti, de faire quand même un bruit très significatif sur la problématique que vous avez relevée dans cette émission. Vous savez, M. Jody, le problème aujourd'hui, c'est des sept questions bipartites que je qualifierais ainsi de qui fait quoi et quel type d'homme formons-nous. Vous savez, M. Pierrot Lamenti, dans les temps, on nous disait que les D4 étaient en mesure de rendre un service très équitable, très rentable à la société. Aujourd'hui, c'est vraiment bizarre de rencontrer un type d'homme qui sort d'une école primaire dont tous les objectifs ne sont pas vraiment atteints et l'homme n'est même pas capable de former quelque chose, même au niveau du secondaire. Et je vais vous dire que j'ai appris un cours où j'ai étudié un cours avec une dame dans mon institution supérieure et l'université ici à Kananga, les cours de socio-économie, monsieur Pierrot Lamenti. Dans ce cours-là, on nous montre deux grandes finalités de l'éducation, monsieur Jody. La première, je vais vous dire que c'est de préparer l'individu à exercer certaines fonctions sociales. Et que ces fonctions, en revanche, doivent vraiment obliger l'individu à
Modeste, on vous garde en ligne parce qu'on va revenir à vous tout à l'heure après quelques secondes, le temps d'écouter le flash information de Radio Capi. On va revenir à vous. Albert aussi est à Kananga. Gardez la ligne, nous sommes à vous après 2 minutes. Merci pour le flash information de Radio Capi. Nous sommes en deuxième partie de Parole aux auditeurs consacrée à ces jours à l'accessibilité de l'éducation à tous les Congolais selon les objectifs 10 millénaires pour le développement d'ici 2015, c'est en marge de la célébration de la journée internationale de l'éducation. Qu'est-ce qui doit être fait pour arriver à cette accessibilité de l'éducation? Nous revenons à Modeste qui est à Kananga. Modeste, vous êtes en train de décrire pour vous ce qui doit être fait pour permettre à ce que l'éducation puisse être accessible à tous et surtout dans la province où vous êtes, au Kassai Occidental. Si vous êtes avec nous, Modeste, vous pouvez terminer votre point de vue avant d'écouter Albert et Simon qui est à Matadi.
En fait, monsieur,
parole aux auditeurs.
Oui, Modeste, vous êtes avec nous, allez-y.
Oui, je suis en train de décrire certaines finalités très idoines que l'éducation est en train de poursuivre, monsieur Jody. J'étais en train de parler de la préparation de l'individu à exercer certaines fonctions sociales par rapport à ce qu'il a appris sur le banc de l'école. Et ce qu'il a appris sur le banc de l'école lui oblige d'en avoir certaines capacités pour rendre quelque chose à la société en tant que service. Et en deuxième position comme finalité, l'individu doit avoir un certain épanouissement sur tous les plans. Parce que parler de l'éducation, c'est quand même vague, mais c'est vrai la même. L'éducation, je sais que l'éducation a pour support l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement est au rabais, on est en train de décrire ça et là. Mais on doit savoir que l'individu doit être formé sur tous les plans. C'est quand même la nécessité d'intégrer l'individu dans la société qui a acquis une bonne éducation. En dehors de ça, je pense que cette journée a vraiment a trouvé son bien fondé parce que les bases sont quand même un certain ancrage politique. Vous savez, la Charte internationale des droits de l'homme garantit l'éducation pour tous, la démocratisation de l'enseignement dans son article 10 du 10 décembre 1948. Vous savez, l'éducation, c'est un droit inaliénable, monsieur Pierrot, la même chose pour chaque individu congolais. Et on ne doit pas exclure n'importe quelle catégorie d'individus. Aujourd'hui, on est en train de discriminer certains individus, certaines personnes, pour n'avoir pas d'accès à l'éducation. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, il y a des naissances, des écoles, des enfants de bourgeois, des enfants des familles modestes, et puis pour vous rendre compte que la démocratisation n'est pas un profit qu'il y a déjà son bien fondé.
Oui, Modeste, on a des petits soucis. Il y a un bruit de fond qui ne permet pas d'aller plus loin. Mais si je peux retenir dans votre intervention, vous avez beaucoup insisté sur le fait de savoir quel type d'enseignement faudrait-il inclure dans l'éducation pour former quel type d'homme. Mais malheureusement, là, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Mais vous avez aussi fustigé le fait aujourd'hui que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a au niveau de la, au sein de la société, des écoles qui ne peuvent pas être accessibles à tout le monde parce que ce sont les écoles de ceux qui ont de moyens. Mais votre souci, c'est qu'il faudrait que l'éducation soit accessible à tout le monde, qu'on ait des mesures qui permettent à chaque membre de la société puisse avoir accès à l'éducation parce que ça est un droit inaliénable, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Modeste. Nous restons dans la même ville avec Albert. Bonjour, Albert.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi qu'à notre invité.
Nous dégageons ensemble les pistes et solutions pour atteindre cet objectif de rendre l'éducation accessible à tout le monde d'ici 2015 comme l'un des objectifs du millénaire pour le développement la RDC a souscrit. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. J'aimerais un peu contribuer à notre débat du jour, monsieur le journaliste, en soulignant quelques lignes ici. Je reviens à une chose, monsieur le journaliste, de créer le boulot, afin que ceux qui terminent puissent avoir quand même le travail à ce niveau. Ça peut encourager ceux qui sont à la maison, ou les parents qui négligent un peu que leurs enfants puissent aller à l'école. Vous savez, monsieur le journaliste, ici, dans notre pays, ce qui est frappé, c'est quoi? Un étudiant, mais vous savez qu'on termine les études comme ça, on reste à la maison et on ne sait pas où commencer. Ça décourage un peu. Étant aussi un peu veillé à ces phénomènes pour qu'on puisse un peu décanter cette situation. Mais c'est réaliste, c'est que, en tout cas, ça ne nous arrange pas.
Merci beaucoup, Albert.
Je passe un peu à notre...
Oui, allez-y rapidement,
oui. Fait, oui, l'État doit un peu veiller surtout à toutes les antivaleurs au niveau de l'enseignement, monsieur. Il doit améliorer le système éducatif, car notre système ici est frappé par trop de formation, mais pas assez de la pratique, monsieur. Et trop d'intellectualisme, mais pas de boulot, monsieur. J'aimerais vous dire à ces deux points que je viens de dire que nous sommes témoins de tout ce qui se passe ici dans notre pays. Et concernant la formation, on est beaucoup formés, mais vous savez, pour passer en pratique, c'était dangereux. Vous trouverez les sorciers qui viennent de terminer tout à l'heure. Vous lui demandez, vous lui posez même une petite question, et il ne saura pas vraiment vous expliquer parce que il n'a pas la pratique de ce qu'il a vraiment étudié.
Voilà, Albert, si on peut, parce qu'on va bientôt, Albert, parce qu'on va terminer, on est en train de terminer cette émission, Albert, il y a le dernier auditeur, hein, Simon, qui est sur les antennes, qui nous appelle de Matadi, dans la province de Bakongo, mais je peux résumer, vous avez insisté sur le fait qu'il faudrait d'ailleurs faciliter à ceux qui sont formés d'avoir de l'emploi. Cela va donner du courage aux parents, là où vous êtes, d'envoyer aussi d'autres enfants à l'école. Quand ceux qui ont terminé ne savent où aller avec leur diplôme, ils se posent un problème de compréhension et de découragement au niveau de la société, ce qui fait que cela peut avoir un frein à l'accessibilité de l'éducation, à l'amour même de la formation. Et vous avez beaucoup insisté sur la réforme du système qui doit permettre à ceux qui sont formés puissent être des créateurs d'emploi plutôt qu'avoir des théories pour ne pas décourager ceux qui ont envie de pouvoir s'inscrire à l'école. Merci beaucoup, Albert. Vous êtes à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Je crois qu'on va terminer cette émission avec les derniers auditeurs. Hein. C'est Simon qui nous appelle de Matadi, dans la province du Bas-Congo. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour. Simon Tsilulu, le coordinateur de la CONET de Bas-Congo. Le sujet est tellement important. En fait, l'éducation pour tous, en d'autres termes, relativement aux OMD, c'est-à-dire les objectifs du ministère pour le développement, veut tout simplement dire suppression de tout obstacle qui empêcherait à un enfant ou adulte d'apprendre à lire et à écrire d'ici 2015. Et si maintenant, il faut que les gouvernements des différents pays qui ont signé ces accords de l'éducation pour tous manifeste une bonne volonté de façon que d'ici 2015 qu'on puisse arriver à ces objectifs. Et il y a des indicateurs des OMD. Et parmi ces indicateurs, les plus frappants sont sur l'éducation de la petite enfance. Regardez quelle est l'importance que notre pays accorde à la petite enfance. La petite enfance veut dire la pré-primaire de l'école qu'on appelle maternelle. Vous savez que nous ici, les enfants de 36 à 59 mois ne représentent que 5% la moyenne nationale. Déjà, c'est trop bas. Quel est le budget de la République pour la petite enfance? Et nous avons l'éducation pour les adultes, les rattrapages scolaires. Quels sont les centres officiel que la République a mis en place pour récupérer tous ces adultes analphabètes? Est-ce que dans notre pays, nous avons combien d'écoles maternelles, pardon, qui sont officielles, les écoles publiques maternelles? Quand vous faites les calculs, elles sont à compter au bout des doigts. Les taux d'accès à l'école primaire, jusqu'ici dans la moyenne nationale, c'est 51%. Donc, je veux dire, c'est vraiment, les indicateurs sont très rouges. Mais que fait le gouvernement? Quand vous voyez le budget de l'éducation de l'année qui venait de s'achever, de cette année, 13%. Sur ces 13%, quand vous voyez le taux d'exécution, l'exécution, c'est 2,5%. Mais pendant ce temps, il y a déjà des domaines qui ont déjà dépassé, ils ont déjà fait 600% déjà de consommation de budget, alors que parfois ils n'avaient que 30. Et tout ceci, ce sont des problèmes qu'il fallait voir. Parce que d'ici 2015, nous serons encore les derniers. Ça n'honore pas le pays. Pour les ministères, je sais qu'ils sont soumis à un devoir de revoir un peu les chiffres à la hausse. C'est pour que nous puissions avoir une représentativité normale. Mais plus que nous le faisons, mais sur le terrain, les dénonces sont hautes. Quand vous voyez les budgets que les gouverneurs, même les gouvernements provinciaux, regardez les institutions supérieures d'enseignement pédagogique qui s'occupent des formations des enseignants. Les gouvernements provinciaux, même nationaux, ne les occupent pas. Ils préfèrent équiper les institutions supérieures universitaires privées, et même qui n'ont pas de profil de former des enfants ou de quoi. Sont bien équipés. On donne des cadeaux, on donne des dons. Nous, ici, au Bas-Congo, il y a l'ISP Mbanzangou. Qu'est-ce que le gouvernement provincial ou le gouvernement national fait pour cette institution? Ils sont reclassés, reclassés là-bas. On les voit dans les universités privées. Donc il va falloir qu'une volonté politique puisse se lier totalement pour que demain, d'ici 2015, qu'on rattrape et que la petite enfance soit protégée et soit envoyée, qu'on ait des écoles communautaires, donc des écoles pré-primaires publiques.
Merci
pour
beaucoup,
déjà préparer l'enfant.
Voilà, merci beaucoup Simon. Ce que vous avez dit pour terminer cette émission, c'est très très important. Vous avez beaucoup insisté sur la formation à partir de la petite enfance ou pratique de l'école maternelle. Il faudrait qu'on puisse en avoir des écoles maternelles publiques aussi. Mais à cela, il faut avoir des centres d'éveil des consciences, mais aussi des centres pour l'encadrement des adultes, ceux-là qui ont raté l'éducation formelle. Et il faut revoir dans l'ensemble, avoir une volonté politique pour arriver effectivement à atteindre cet objectif de rendre l'éducation accessible à tout le monde d'ici 2015. Merci beaucoup Simon, merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à intervenir dans cette émission consacrée à la sexualité de l'éducation à tout le monde. C'est par là que nous terminons l'émission de ce jour. Qui?
Allô? Allô? Allô?
Mais
qui ne répond pas?
On se retrouve demain jeudi 8 août pour notre numéro des paroles aux auditeurs. Nous allons parler environnement. Vous savez, à Kinshasa, l'ONG Greenpeace fustige la coupe d'arbres effectuée dans certaines communes pour raison des passages d'une ligne du courant électrique. Partant de cela, nous allons faire le point sur la situation des arbres dans votre milieu. Connaissez-vous la situation des coupes d'arbres dans votre milieu et qu'est-ce qu'il faut faire pour y faire face? On se retrouve demain à 11h03, heure de Kinshasa. Merci à Berry, Franklin, Luchaka, Titimputu, Dieudonné Nyangasa qui nous ont aidé à produire cette émission supervisée par Nicole Ngaka, que vous allez retrouver ce soir à 20h03 en rediffusion en FM, mais aussi sur www.radiocapi.net. Au revoir.